Bonjour à tous. Tout le monde va bien? Yes. Merci à toute l'équipe de musiciens aussi ce matin. Très bon temps de louange. Je vais appeler les derniers à prendre place. On va prendre le temps de se saluer encore à la fin. Fait que soyez bienvenus ce matin pour. C'est notre sixième dimanche déjà dans la série d'été. Sixième message. Comment ça d'accord? Ça file à toute vitesse. On a l'impression que l'été n'a pas encore commencé. Il fait encore froid. Yeah. 18 degrés. C'est frais pour l'été, là. Fait que c'est le sixième message ce matin, et ce matin, j'aimerais qu'on puisse parler de la grâce. Le titre du message, c'est un challenge pour moi cette série, je suis obligé de donner un titre de message parce qu'on a une slide où il faut qu'on mette le titre du message. Le titre du message ce matin, c'est la grâce, bien plus qu'un simple cadeau, bien plus qu'un cadeau. Et pourquoi je place la grâce dans cette série où on aborde des sujets que, je les nomme un petit peu des angles morts de la vie chrétienne, des choses qu'on manque, qu'on passe à côté, qu'on prend pour acquis. Ben, c'est parce que justement la grâce, je crois, fait partie de ces choses-là, fait partie de ces choses tellement essentielles, nécessaires, qu'on voit même plus, on remarque plus. Et très simplement, on a besoin d'être enseigné sur la grâce, d'avoir des fondements bibliques solides sur tous les sujets. Ça fait jamais de mal de revenir aux bases. Fait que si t'es nouveau, si c'est nouveau pour toi, la foi chrétienne, la Bible, c'est quelque chose d'inconnu peut-être pour toi ce matin, ou si ça fait longtemps que tu es là, la grâce, j'aimerais vous le dire ce matin en commençant, la grâce est tellement vitale, elle est essentielle, que personne ne devrait se permettre de mal comprendre le sujet ou de négliger sa valeur quelque part. Peut-être qu'on ne réalise pas toujours, mais tout commence par grâce. Littéralement tout. Si j'ai pu me lever ce matin, si j'ai pu prendre mon char pour venir à l'église sans avoir une panne, c'est une grâce de pouvoir se lever le matin, c'est une grâce de ne pas se retrouver les pieds, je le sais, je l'ai expérimenté il y a quelques semaines, les pieds dans l'eau, dans ta cour, partout, c'est une grâce. Tout arrive par grâce, tout arrive à son accomplissement par la grâce, par la seule grâce de Dieu. Charles Spurgeon, qui est un célèbre prédicateur revivaliste, tout le monde en a entendu parler, disait qu'entre maintenant et le ciel, chaque minute que vit un chrétien est une minute de grâce. Combien sont d'accord avec moi? Tout, littéralement tout par grâce. Ce matin, le but du message, c'est de pouvoir nous permettre de découvrir, peut-être de redécouvrir plusieurs fruits et bénéfices de la grâce, mais aussi de remettre en lumière certains pièges dans lesquels on tombe parfois par rapport à ce sujet-là. On a besoin de se rappeler régulièrement de ce que la grâce est et de ce qu'elle n'est pas. Lydie et moi, ma femme qui n'est pas là ce matin, elle accompagnait Cathy qui est allée prêcher à l'extérieur. Lydie et moi, on aime vraiment tout ce qui est architecture, design, on est des bricoleurs, on aime ça. Puis ça nous arrive des fois, à la maison, ça nous est déjà arrivé une couple de fois. En fait, la décoration, elle reste jamais 10 ans trop pareil chez nous. Fait que, on était à Longueuil dans notre appartement quand j'étais au collège biblique. On n'avait pas ben de moyens. On vivait un petit peu sur nos économies puis nos petites jobines d'étudiants. Puis on avait notre appartement à Longueuil tout blanc. Pas de peinture, pas de couleur. Les meubles les moins chers au IKEA. Tu sais, la table en bois qui coûtait 69 piastres avec 4 chaises à l'époque, qui aujourd'hui coûte 399. On avait ça, nous. On avait ça chez nous. Puis, un soir, il est 8h30. Ça ferme à 9h, les quincailleries. À 8h30, on est sur le divan, en train de regarder la TV. Puis, fais-tu la déco? Fait qu'on a tout viré à l'envers. On est vite parti à quincailleries, s'acheter un galon de peinture. On a tout commencé à faire la peinture à 9h le soir et plus tard. Terminé ça à minuit. Puis, on commence à replacer. Le mur était blanc. On l'a mis gris foncé. En tout cas, c'était toute une affaire, là, cette affaire-là. Et on a tout viré la déco à l'envers. On place notre appartement comme il faut, puis on a le feeling de ne pas être chez nous pendant une couple de temps. Vous êtes déjà arrivé? Tu sais, tu arrives, puis tu rentres chez toi, il y a comme un espèce de malaise. C'était beau, là. On aimait ça, mais c'est comme pas chez toi. Puis, avez-vous déjà vécu ce genre de truc? Tu sais, tu as l'impression que c'est pas placé comme tu as l'habitude. Il y a quelque chose qui te dérange. Il n'y avait pas la table basse à cette place-là, puis là, tu te la prends dans les tibias quand tu passes. Mais ce qui se passe, c'est qu'après quelques jours, on s'habitue. Puis nous, c'est ça qui est arrivé. Après quelques instants, là, on s'est habitué. On a commencé à voir ça comme c'est chez nous, là. Les affaires faisaient partie du décor. C'est comme, tu sais, c'est normal, ça devient normal. Et à propos de la grâce, c'est un petit peu ça notre problème. C'est un des pièges qu'on vit dans lequel on tombe facilement. Parce que la majorité d'entre nous, la grande majorité d'entre nous, ce matin, ça fait un moment qu'on est confortable avec l'idée de ce qu'est la grâce. On vit la grâce. Ça fait déjà un certain temps qu'on est venu à Jésus. La grâce pour nous fait partie de notre langage courant. On sait que les choses, tout est grâce, puis on sait ce que c'est la grâce de Dieu. Mais on s'est tellement habitué qu'au final, de vivre sous la grâce de Dieu, ben, il y a un danger avec ça. Il y a un danger. Avec le temps, on arrive à une place où on est devenu si familier avec la grâce de Dieu, avec cette idée de la grâce, cette compréhension de la grâce, qu'elle est devenue comme un simple élément du décor, un petit peu comme nous, 2-3 jours après avoir fait la peinture. Ça fait partie du décor, c'est là, c'est présent, et finalement, ça passe inaperçu. C'est dans notre langage, dans notre compréhension. Et ce matin, ma prière, c'est qu'on puisse quitter ce lieu sincèrement, en réalisant davantage quelle est la valeur de la grâce de Dieu envers nous, mais aussi afin qu'on puisse vraiment se tenir avec une plus grande révérence devant Dieu. Parce que Dieu fait grâce, et cette grâce-là a un prix incroyable que parfois on néglige. Laissez-moi prier, on va aller plus loin dans ce message. Seigneur, on te demande de prendre toute la place dans nos cœurs, dans nos pensées, dans notre attention. Seigneur, c'est toi qui es maître dans ce lieu. Seigneur, tu as appointé ce moment pour nous ce matin. Tu nous attendais, tu as préparé ce lieu. Seigneur, tu nous attendais comme ton peuple qui vient t'adorer, Seigneur. Et tu as quelque chose à nous communiquer par ton Esprit Saint, par ta parole, Seigneur. Alors ce matin, nous voulons te dire, me voici, on vient de le chanter. Me voici les bras ouverts, mais me voici le cœur et les oreilles ouvertes ce matin, Seigneur. Je veux entendre et recevoir de toi. Et Seigneur, dirige-nous, change-nous, transforme-nous par ta parole. Permets-nous, Seigneur, de vraiment ressortir de ce lieu, transformer, ressortir de ce lieu, vivifié par ta grâce, Seigneur. Et libérer peut-être ce matin, alors que plusieurs viennent avec des chaînes, Seigneur, ce matin, prends toute la place dans ce moment, afin que tu puisses être glorifié par ce temps que nous te donnons ce matin, dans le nom de Jésus. Amen. Et amen. C'est quoi la grâce? Commençons par regarder c'est quoi la grâce. La grâce, si on va dans le dictionnaire, là, juste basique, le dictionnaire Larousse, le petit Robert. La grâce dans le Larousse, c'est un nom tiré d'un mot latin, gratia, de gratus, qui littéralement se traduit par le terme agréable. C'est ça la grâce selon le dictionnaire. Dans le Robert, on nous détermine la grâce comme étant une faveur accordée librement à quelqu'un, un bienfait, un don. Faire grâce, c'est la disposition à faire des faveurs, à offrir des faveurs, à être agréable à quelqu'un. Trouver grâce auprès de quelqu'un, c'est lui plaire, gagner sa bienveillance. Et bibliquement parlant, on voit aussi une définition à plein d'endroits de la grâce. Le terme qui est employé dans la Bible, quand il est question de grâce, c'est le mot charis, qui se traduit littéralement par grâce, bonne volonté, faveur, qui exprime vraiment l'idée de quelque chose, d'un don bienveillant, d'une faveur qui a été offerte à quelqu'un. Charis, c'est le terme qu'on retrouve à travers le Nouveau Testament dans la Bible, qui décrit la nature imméritée du don du salut. C'est une grâce, c'est un don, c'est une faveur offerte à quelqu'un, donnée non à cause de la justice du destinataire, mais à cause de la bonté de Dieu en Christ. Et c'est ce qu'on lit dans Éphésiens 2, au verset 1 à 10 que je vais vous lire, ça apparaît à l'écran. Vous qui étiez morts à cause de vos fautes, c'est l'apôtre Paul qui parle aux Éphésiens, et de vos péchés, que vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Nous tous, nous étions de leur nombre. Il inclut tout le monde, c'est notre cas, chacun d'entre nous encore aujourd'hui. Notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre, puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées. Et nous étions, par notre condition même, destinés à la colère, tout comme les autres. Mais Dieu, riche en compassion, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. Et c'est par grâce que vous êtes sauvés. Au verset 6, il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Verset 7, il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. Pardon. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. En réalité, c'est lui qui nous a fait, nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Jerry Bridges, qui a écrit sur la grâce, a dit que la grâce, c'est la faveur gratuite et imméritée de Dieu, accordée aux pécheurs coupables qui ne méritent que le jugement. C'est l'amour de Dieu montré à ceux qui n'est pas aimable. C'est Dieu qui descend vers les gens qui sont en rébellion contre lui. Et John Piper a dit que la grâce, c'est le plaisir que Dieu prend à révéler combien Dieu est digne en donnant aux pécheurs le droit et le pouvoir de se délecter en Dieu sans obscurcir la gloire de Dieu. La grâce, c'est un don de Dieu. On parle de Dieu ce matin, c'est à propos de Dieu, c'est pas à propos de nous, c'est à propos de lui. Littéralement, la grâce, c'est la décision délibérée, complètement unilatérale de Dieu. C'est vraiment un choix que Dieu a pris de son propre chef, de son côté, de ne pas charger nous là, de ne pas nous charger du malheur qu'on méritait pour nous donner en abondance la bénédiction qu'on ne mérite pas. La grâce, c'est la décision délibérée de Dieu de ne pas nous charger du malheur qu'on méritait pour nous donner en abondance la bénédiction que nous ne méritions pas. La grâce de Dieu découle directement de sa bonté. La grâce de Dieu descend direct du ciel, d'être son amour pour la création, sa bonté, son amour pour la création. Et ça, c'est le bout qu'on connaît tous quand même assez bien. On sait que c'est un cadeau, c'est une grâce. Parler de la grâce, c'est un des sujets les plus merveilleux qui soit. Mais c'est un des plus grands challenges aussi. Parce que parler de la grâce, c'est impossible d'aborder le sujet de la grâce sans honnêtement considérer son coût, considérer le coût de la grâce, le prix de la grâce, la valeur de la grâce. Et ça, c'est le bout un petit peu plus tough pour nous ce matin. On entre là-dedans. Parce que le défi quand on est familier avec quelque chose, c'est de commencer à le négliger peu à peu. C'est d'avoir tendance à le prendre pour acquis, de le considérer avec insouciance parfois. Pour nous, les bénéfices de la grâce sont gratuits et immérités. C'est gratuit, c'est totalement immérité. Mais pour Dieu, le prix a été extrêmement élevé. Élevé à un prix qu'on ne peut pas imaginer. Parfois, on l'oublie. Dieu n'est pas un distributeur. Tu sais, dans les centres d'achat là, qui n'ont pas été mis à jour dans les dernières années, tu as toujours cette espèce de manège à l'entrée où tu mets une pièce puis tu tournes en rond. Où moi, j'ai été dessus quand j'avais 2 ans, puis mes enfants qui ont 8 ans vont encore dessus. Vous voyez de quoi je veux parler. Et des fois, il y a ces espèces de distributeurs de bonbons où tu mets un 25 sous dedans, puis tu as des bonbons, des gommes qui sortent, puis tu ne sais pas quelle est la date de péremption de cette affaire-là. Là. Ça vous est déjà arrivé d'y penser? Moi, j'y ai pensé déjà. Comme mon gars, il dit, « Peux-tu avoir? » OK, d'accord, je sors une pièce. Ça date de quand, cette affaire-là? Sais-tu de l'origine que c'est resté là-dedans, 1992? Dieu n'est pas un distributeur de bonbons dans lequel on met une pièce pour qu'il nous donne ce qu'on aime en échange de ce qu'on méritait réellement. C'est pas ça, la grâce. C'est pas ça, la grâce. La bonté et l'amour qui motivent la grâce de Dieu annulent en rien sa justice et sa sainteté. Le fait que Dieu soit parfaitement saint et juste, mais aussi plein de grâce, ne fait que rendre à la grâce encore quelque chose de plus beau, plus magnifique, ne fait que donner plus de valeur à la grâce. Dieu t'aime passionnément, il est amour, c'est ce que la Bible nous dit. Mais Dieu a en horreur le péché parce qu'il est saint, il est parfaitement juste, parfaitement saint. Et c'est justement pour ça qu'on ne peut pas prendre la grâce à la légère, et que c'est important d'en parler ce matin. N'oublions jamais que sans la grâce, on serait tout simplement rien, on ne serait plus là. Et cette réalité-là rend la grâce à la grâce toute sa valeur, son immense valeur. La Bible nous dit qu'alors qu'on était sans solution, c'est ce que l'apôtre Paul dit aux Éphésiens, complètement sans solution, perdu, pris complètement, soumis à notre péché, enchaîné dans nos affaires, complètement séparé de Dieu, complètement vide à l'intérieur, Dieu a surpassé lui toutes les impossibilités qui étaient là pour nous rejoindre là où on était, pour nous ramener à lui. C'est ce que Dieu a fait. Ouais, mais Dieu aurait pu passer par-dessus, puis tourner la tête, puis juste faire autre chose. Dieu ne pouvait pas seulement tourner la tête et passer à autre chose. Dieu ne pouvait pas juste fermer les yeux sur notre condition. À cause de sa sainteté parfaite, sa justice parfaite, Dieu n'avait pas le choix que d'intervenir. Il fallait qu'il intervienne, il fallait faire quelque chose. Et concrètement, il y avait 2 choix pour Dieu. Il y avait 2 choix devant lui. Soit il donnait à l'humanité ce qu'elle méritait, et là, on se fait poudrifier en une fraction de seconde, et c'est réglé, c'est fini, on recommence tout à zéro. Soit Dieu décide d'intervenir lui-même pour régler le problème du péché. Et grâce, gloire soit rendue à Dieu, il a choisi la 2e option. Amen. On est là ce matin, par la grâce de Dieu. Il fallait que quelqu'un paye la note. Absolument, il fallait que quelqu'un paye la note du péché. Et à cause de ça, il fallait littéralement que quelqu'un de parfaitement saint vienne prendre cette note-là, choisisse de prendre sur son compte l'horreur de notre péché. Et par la suite, et c'est là qu'il est le bout, important pour nous ce matin si tu prends des notes, fallait que quelqu'un de parfaitement saint décide de descendre sur la terre, prendre la note, payer la facture, mais qu'après ça, décide de nous pardonner, de nous accorder un pardon total et de ne plus nous en vouloir. Tellement de fois, on arrive dans nos relations, tu sais, j'ai pardonné, mais il y a des conditions après. Hein? Regardez-moi, l'année dernière, on se préparait à vendre notre maison pour arriver à Québec, puis là, ben, quand tu vends une maison, tu veux la rendre propre, tu veux la vendre avec la meilleure plus-value quelque part. Puis nous, on avait un driveway 2 places, un stationnement rempli de fissures, de craques, de partout. Fait que là, je me suis dit, je vais m'y mettre. En automne, avant que ça commence à geler, je commence à m'y mettre, j'achète du scellant, je commence à réparer les fissures, je répare tout ça. Puis ça ne me tentait pas, on vendait la maison, on allait, tu pourrais dire, on arrache tout, on recommence. Non, on vendait. Fait que je répare tout ça comme il faut, je répare les fissures, j'achète un apprêt par-dessus que pour le rendre noir bien comme il faut, on colmate toutes les craques, tous les trous. Ça prend des heures à faire ça, là. Ça prend 2-3 jours, pendant 48 heures, il ne faut pas rouler dessus. Là, tu indiques tout ça, je mets tout ce qu'il faut, je mets de la signalisation, je mets mes 5 gallons posés devant l'entrée avec un bâton, quelque chose. Tu sais, je préviens toute la famille, je dis à tout le monde, il ne faut pas marcher dessus. Là. J'ai deux petits garçons de 7 ans à ce moment-là, là. Puis leur panier de basket est sur le driveway. Fait que la tentation était là, là. Ça se passe bien le premier 24 heures. Juste le matin suivant, moi, je ne suis pas là. Et j'ai un de mes petits garçons de 7 ans qui prend sa trottinette dans le garage et qui a complètement oublié qu'il y avait une indication qui était donnée. On a tous des histoires de démolition, moi les miens sont spécialistes. Et là, moi je rentre de l'église plus tard dans la journée, j'arrive, je me stationne dans la rue, puis je ne remarque pas tout de suite, moi, je pilote automatique, je passe dans le gazon à côté, puis je rentre à la maison. Là, je ressors. C'est la ronde dans le stationnement, là. Il a pris sa trottinette. Ça a tout fait des marques blanches, des sillons de partout, c'était encore mou à certaines places. C'est détruit, c'est défoncé là, ça. Il faut recommencer. Là, à l'intérieur de moi, c'est que ça coûte cher, ce matériel-là, puis j'ai passé quand même une couple de jours. Et là, c'est qui a fait ça, les gars, sérieusement? Je sais que c'est un des deux, il n'y a personne qui veut se manifester. Bon, j'insiste pas, on répare, puis là, le lendemain, j'ai un de mes gars qui vient vers moi, puis
c'est moi qui ai cassé le stationnement. Je suis désolé.
Tu sais, tu ne peux pas lui en vouloir trop longtemps là-dessus. Là, c'est correct, je t'ai pardonné. Mais tu sais, au fond de moi, j'avais le goût de lui dire, c'est correct, je te pardonne. Mais tu ne mets plus jamais, jamais, jamais un pied sur mon stationnement. Fini. C'est fini pour toi, stationnement. Il n'y a plus de ballon de basket, plus de trottinette, c'est fini. Je l'ai pardonné de tout mon cœur. Là. Tu sais, je l'aime, mon fils. Mais ça, c'est moi. Heureusement que Dieu n'est pas comme moi. Okay? La grâce de Dieu... C'est ce don immérité. Il fallait que quelqu'un de parfait descende jusqu'à nous payer la note, le prix le plus élevé possible, décide de ne plus nous en vouloir après ça et de ne pas mettre 36 conditions. Et spirituellement, c'est vraiment ça que Dieu a fait. À cause de sa bonté, à un moment donné, en voyant notre condition, personne ne l'a obligé. Dieu du ciel a vu la séparation qui était là. À cause du péché, on était sans lui, pris dans nos affaires. Et alors que Dieu est dans une relation parfaite, là, on parle de la Trinité, le Père aime le Fils aime le Père, dans une collaboration parfaite avec le Saint-Esprit, Dieu décide d'envoyer Jésus à un moment donné. On va envoyer Jésus sur la terre, quitter la gloire, être séparé de cette relation, être séparé de cette gloire-là, descendrait pour s'humilier, pour devenir semblable à nous, dans la faiblesse, dans la fragilité, dans toutes sortes de tentations qu'il a pu vivre. Mais en demeurant parfaitement saint, parfaitement divin, s'est gardé pour la mission qu'il avait à accomplir, afin de s'offrir comme sacrifice parfait pour le pardon de tous nos péchés. C'est ce que Jésus a fait. Et l'apôtre Paul va résumer cette action-là dans Romains 5, versets 20 à 21, en disant que l'intervention de la loi a entraîné la multiplication des fautes, a fait révéler nos fautes. Mais là où le péché s'est multiplié, Paul le résume comme ça, la grâce a surabondé. Ainsi de même que le péché a régné par la mort, de même la grâce règne par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. La grâce a surabondé. Littéralement, la grâce est allée au-delà de toutes les conditions possibles, est allée au-delà de toutes les erreurs possibles, même les pires affaires. La Bible nous enseigne que Dieu n'a pas juste décidé de pardonner nos fautes en plaçant des conditions. Regarde, je te pardonne, mais ne t'approche plus. Oui, il y a ça, il y a la repentance, il y a des conditions à marcher avec Dieu. Mais cette grâce-là est totalement imméritée, gratuite et sans. Elle est offerte sans condition. Elle est recevable sans condition. Mon amour à moi, mon amour est appelé à grandir envers Dieu. Et c'est parce que j'aime Dieu que moi-même je respecte sa volonté et que j'adopte certaines conditions dans ma vie. Mais Dieu, son pardon n'est pas limité comme le mien. Dieu a pris la décision non seulement de tolérer ma faute ou encore de passer par-dessus en m'imposant des conditions. Même si j'ai scrapé ma vie, Dieu lui est allé au-delà du possible. C'est ça la grâce. En faisant le nécessaire afin de ne pas me charger du malheur que moi je méritais. Il a fait le nécessaire pour me donner en abondance la bénédiction que je ne méritais pas. Il ne m'a pas donné ce que je méritais, il m'a donné en abondance ce que je ne méritais pas. C'est grâce, sa bienveillance, sa bonté, son amour, ses ressources. À cause de Jésus, Dieu donne un accès total à toutes ses ressources. C'est ce que la Bible nous enseigne. Comme si on était parfait. C'est ça la grâce de Dieu. C'est ça la grâce qui surabonde. Amen. Ça va? C'est ça la grâce qui surabonde. Dieu me donne en abondance ce que je ne mérite pas, sa bienveillance, sa bonté. La grâce, c'est tout sauf quelque chose de bon marché, de superficiel ou de sans effet, qu'on peut considérer un petit peu comme un bibelot qui fait partie du décor qu'on laisse en arrière sur une tablette. La grâce surabonde là où le péché abonde. Et Paul poursuit dans Romains 6, versets 1 à 15, en disant, « Que dirions-nous donc ? Allons-nous persister dans le péché afin que la grâce se multiplie ? » Non, certainement pas. Nous qui sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous encore vivre dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui afin que, comme Christ est ressuscité pour la gloire du Père, de même nous aussi, nous menions une vie nouvelle. En effet, si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. En effet, celui qui est mort est libéré du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, car nous savons que Christ ressuscité ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Christ est mort et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Maintenant qu'il est vivant, c'est pour Dieu qu'il vit. Et de la même manière, vous aussi, considérez-vous comme mort pour le péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel pour vous soumettre à lui par ses désirs. Ne mettez plus vos membres au service du péché comme des instruments de l'injustice, mais au contraire, livrez-vous vous-même à Dieu comme des morts revenus à la vie et mettez vos membres à son service comme des instruments de la justice. En effet, le péché n'aura plus pas de pouvoir sur vous puisque vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc ? Allons-nous pécher parce que nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce ? Certainement pas. Commençons à considérer la grâce pour ce qu'elle est, ce matin. Prenons la résolution de considérer la grâce pour ce qu'elle est. La grâce, ce n'est pas juste un cadeau qu'on dépose sur une tablette. Tellement de fois on le fait, ça fait 13 fois que tu reçois la même tasse, fini dans l'armoire. Pose ça sur une tablette. La grâce, ce n'est pas non plus une béquille sur laquelle on s'appuie, béquille bon marché sur laquelle on se repose chute après chute, échec après échec, abandon après abandon parfois. La grâce surabondante de Dieu nous donne accès en Jésus-Christ, nous donne accès à toute la puissance nécessaire. C'est ce que Paul est en train de dire. Il n'y a pas de condition ici. Mais il me donne accès à quelque chose que je n'avais pas avant, sans la grâce. Il me donne accès à toutes les ressources du ciel. Elle a toute la puissance nécessaire pour courir vers la victoire. Randy Alcorn a dit, un pasteur que j'aime beaucoup lire sur tout, à peu près tous les sujets, là, a dit que la grâce de Dieu ne nous a pas fait progresser pour nous laisser livrer à nous-mêmes par la suite. La grâce ne nous a pas seulement justifiés dans le passé, elle nous soutient dans le présent et elle nous accorde la délivrance dans le futur. Tellement souvent, on s'appuie sur une grâce acquise à notre conversion, mais on oublie de s'appuyer sur la grâce aujourd'hui comme étant la puissance de Dieu qui m'est accordée pour avoir le nécessaire, pour grandir, pour persévérer en lui. Je vais appeler les musiciens à me rejoindre. Trop souvent, on tourne en rond dans notre désert parce qu'on ne réalise pas le don de Dieu. On ne réalise pas ce que Dieu nous a accordé et toute la puissance qui découle de la grâce envers nous. Vous savez, la grâce, ce n'est pas juste un plaster. Très souvent, on considère la grâce, comme un pansement, comme un plaster qu'on pose sur un bobo, qu'on applique pour limiter nos remords, nos déceptions, après avoir manqué la cible. Oui, on a besoin de la grâce parce qu'on est faillible, on est pécheur encore. Mais qui éventuellement, cette grâce-là ne change rien parce qu'on la considère juste comme un pansement, puis quand ça va mieux, on passe à autre chose. Ça, c'est de la grâce bon marché. Ce n'est pas la grâce qui surabonde dans la Bible, dont la Bible parle. Dietrich Bonhoeffer, qui est un théologien qui a œuvré, pasteur, qui a œuvré pendant la Deuxième Guerre mondiale, a subi toutes sortes de mauvais traitements avant d'être exilé. Il disait que la grâce bon marché est l'ennemi mortel de l'Église. La grâce bon marché signifie la grâce vendue comme les commerçants de marchandises à rabais. La grâce bon marché, c'est la prédication du pardon qui n'exige pas la repentance. C'est le rejet de la discipline d'Église. C'est la communion sans la foi. C'est l'absolution sans la confession personnelle. La grâce de Dieu est surabondante pour t'amener vers le but que Dieu a fixé pour ta vie. Il veut t'amener au salut, il veut t'amener à l'éternité dans sa présence, il veut t'amener à grandir. à son image, selon son caractère, pour que ta vie puisse être un témoignage de sa vie, de sa victoire, de sa gloire. Sa puissance de résurrection et sa victoire sont accessibles pour te permettre d'être un témoignage pour sa gloire. La grâce de Dieu, c'est littéralement tout ce dont j'ai besoin. Littéralement tout ce dont j'ai besoin pour continuer de grandir spirituellement. Ce n'est pas un bibelot. Et personnellement, je le dis, la confession du pasteur, là, moi, ça fait tellement souvent, il faut se reprendre. La grâce fait partie de notre décor au point où elle change parfois rien dans nos vies. On est des bonnes personnes. On ne fait pas de mal. On essaye de faire de notre mieux. On compte sur nos propres forces. Mais on ne bénéficie pas de cette grâce qui surabonde. Cette grâce qui va au-delà. Cette grâce qui permet d'aller plus loin. Cette grâce qui amène des transformations de vie autour de nous. Cette grâce qui découle de nous par l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies. On est confortable avec la grâce, mais on l'utilise bien souvent comme un plâtre, bien trop souvent comme un plâtre, et non pas comme la puissance de Dieu qui est rendue accessible, disponible pour transformer nos vies et transformer des vies autour de nous. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse vraiment s'approprier cette grâce-là, l'appliquer pour nos vies. Par sa grâce, Dieu va continuer son œuvre en moi. Par sa grâce qu'il a commencé, il va l'amener à son accomplissement. Par sa grâce, cette transformation qui a commencé. Peut-être que tu luttes avec toutes sortes d'affaires depuis des années. Puis tu tournes en rond. C'est cyclique. Ça va, tu t'en sors, puis là ça revient, ça recommence. Puis là tu tombes de plus en plus bas. Tu essaies d'en sortir, puis ça ne marche pas. La grâce de Dieu surabonde là où le péché abonde. La grâce de Dieu est une puissance qui nous est accordée pour nous permettre de marcher continuellement, de grandir, de progresser. Peut-être que spirituellement, tu t'épuises de toutes sortes de manières. Tu arrives à l'église, puis c'est rendu juste des tâches. Tellement de fois, j'entends parler de ça. C'est des tâches, c'est une routine. Je fais des choses, j'arrive à l'heure, je suis fidèle, je suis là. Mais je ne vis plus cette grâce-là qui me renouvelle, qui me fortifie. Je ne vis plus sous cette grâce-là qui me... La Bible, l'Ancien Testament ne ment pas, le Nouveau Testament non plus, mais tellement de reprises... Les prophètes ont rappelé des vérités par rapport à la puissance de Dieu à l'œuvre dans nos vies. Celui qui se confie en l'Éternel est comme un arbre planté près des courants d'eau. Il ne s'assèche pas, il ne s'épuise pas, il ne tarit pas. Nous, on cherche dans toutes sortes d'autres solutions. La grâce de Dieu surabonde. Là où tu es épuisé ce matin, sa grâce est accessible pour toi, pour te restaurer, pour te fortifier. Là où il y a un conflit peut-être dans ton couple, c'est la guerre. Ouais, on se pardonne avec des conditions, avec un dossier, avec des historiques. La grâce de Dieu qui vient briser les chaînes, la grâce de Dieu qui ramène l'unité, la grâce de Dieu qui fortifie. C'est par grâce que Jésus a décidé de nous pardonner totalement, unilatéralement. Il savait combien on lui devait. Hein. Dieu sait très bien combien on lui doit. J'ai donné un message il y a quelques semaines où je rappelais que chacune de nos paroles sont comptées, puis on devra rendre compte un jour à Dieu de ça. Dieu sait. Jésus est venu sur cette croix, porter la note pour mes péchés passés, présents, futurs. Cette grâce vaut pas seulement dans le passé, depuis à ma conversion, elle vaut encore pour mes failles futures, mes faiblesses, mes manquements futurs. C'est accessible, disponible. Peut-être que c'est ton couple qui a besoin de cette touche de Dieu, de cette grâce de Dieu qui surabonde. Là où il y a des conflits, là où il y a des déchaînements, là où il y a de la rage, il y a des déceptions, il y a des manquements. Tu as besoin de la grâce, j'ai besoin de la grâce. Par sa grâce, Dieu va accomplir complètement ce qu'il a commencé dans ma vie. Il m'a transformé il y a 15 ans, peut-être il y a 3 semaines, il y a 2 semaines, il est venu toucher ma vie. Il y a 6 ans, il y a 3 mois. Peut-être que tu as grandi dans l'église, puis tu sais que Dieu est là, puis tu sais que Dieu agit dans ta vie. Il a commencé quelque chose dans ta vie par sa grâce. Il est venu à toi. Et il va le mener à son accomplissement total. Pour sa gloire, pas pour te faire plaisir, pour sa gloire à lui. Pour sa renommée à lui. Pour que lui soit célébré. Parce que ce n'est pas notre mérite. C'est son choix à lui. C'est son œuvre à lui. J'ai vraiment à cœur ce matin qu'on puisse être averti des dangers de prendre la grâce à la légère. Puis presque en profiter parfois. Jésus n'a pas donné sa vie en sacrifice pour rien. Il l'a fait pour te sauver, pour me sauver. Afin que ma vie soit transpirée. Pas juste pour me sauver et puis commencer quelque chose. Puis Ah ben, c'est bien. Il passe à autre chose. Non. Pour que ma vie reflète sa vie au complet. Il ne veut plus que tu restes pris dans l'esclavage du péché. Il ne veut plus qu'on reste pris dans ces patterns-là dans lesquels on tourne. Il veut me transformer complètement. Et ce matin, je veux t'inviter à saisir le don de Dieu. La grâce en Jésus. Il nous a tout donné. C'est son choix unilatéral de nous donner non pas ce que nous méritons, mais de nous accorder en abondance ce qu'on ne mérite pas. C'est ça qui fait qu'on est là dimanche après dimanche. C'est la seule raison. C'est de célébrer sa grâce, d'être plein de reconnaissance. Mais que ce matin, j'aimerais, alors qu'on va chanter ce dernier chant, peut-être que toi, c'est nouveau, peut-être que toi, t'as rechuté, peut-être que t'es retourné en arrière. Peut-être que toi, ce matin, la grâce, ça faisait partie des bibelots à un point que tu vis même plus les fruits, les bénéfices de la grâce. C'est juste un plaster, puis je me sens mal, fait que je viens à Jésus quand ça va pas bien. Mais tu vis plus cette puissance. Tu ne vis plus cette transformation dans ta vie. Je veux t'inviter à revenir à Jésus ce matin. Il nous a tout donné par grâce afin qu'on puisse mener une nouvelle vie qui est plus soumise aux mêmes règles, aux mêmes limites, aux mêmes limitations qu'on subissait avant. La grâce ne fait pas partie du décor de nos vies. Au contraire, si on vit c'est par la grâce seulement, elle est centrale. Je veux t'inviter à recevoir cette grâce ce matin. Peut-être que c'est ton cas, tu as besoin de recevoir cette grâce. Tu as besoin de l'expérimenter ce matin. Alors j'aimerais simplement prier pour toi si c'est ton cas. Si c'est ton cas ce matin, tu as besoin de cette grâce. Alors qu'on va chanter ce chant-là, je vais prier pour toi là avant de terminer. Mais toi, quand tu vas te lever, reçois-la, accepte-la et décide de repartir. Ouais, ça prend une repentance. Une repentance, ce n'est pas juste des remords. Une repentance, c'est une ferme décision. Une reconnaissance de oui, j'allais là, puis je devrais aller là. Et je me trompais. Je fais demi-tour, je reviens vers toi, Seigneur. Ça, c'est le premier pas. La repentance, c'est aussi la ferme décision de ne plus y retourner. Mais pas par mes propres forces, par sa puissance à lui. Et c'est là que toi, tu as besoin de la grâce, comme moi. Et s'il y a quelqu'un qui a besoin de grâce, ma femme pourrait vous confirmer. J'en ai besoin. J'ai besoin de la grâce. Chacun d'entre nous. Seigneur, je te prie pour chacun d'entre nous ce matin. Merci pour ta grâce. Merci pour ce que tu nous accordes. C'est un don immérité, c'est un cadeau. Seigneur, merci parce qu'un jour tu as choisi toi. Personne ne t'a forcé. De manière unilatérale, totalement délibérée, de nous donner non pas ce qu'on méritait, mais ce qu'on ne mérite pas. Et de nous le donner non pas seulement en surface, avec des conditions, avec un regret, avec résistance. Non, non. Tu t'es donné toi. Et tu nous as accordé en abondance ta vie, la vie. Tu nous as envoyé ton Fils, Jésus, qui s'est offert afin que toute la note qui était tenue contre nous, Seigneur, face à toi, soit effacée, prise sur son compte. Et par sa résurrection, Seigneur, alors qu'il monte vers le Père, eh bien, tu as décidé de nous envoyer ton Esprit Saint pour sceller cette grâce-là, pour sceller ce don divin, pour sceller ce don du salut. Et tu habites en nous. Seigneur, tu habites en nous afin de nous transformer, afin de nous diriger, afin de nous conduire pas à pas plus près de toi, pas à pas plus semblable à toi, Seigneur, afin que nos vies puissent être des témoignages vivants pour ta gloire. Alors ce matin, je te prie pour quelqu'un qui a besoin de recevoir ta grâce, peut-être pour la première fois, ou de recevoir ta grâce à nouveau. Seigneur, pose ta main sur lui ou elle. Seigneur, fais-lui du bien ce matin. Seigneur, permets-lui, comme ta parole le dit, qu'au fond d'elle-même, au fond de lui-même, puisse entendre cette voix qui résonne et qui dit, je t'adopte, tu es mon enfant. Qu'il puisse ce matin déclarer lui aussi, ou elle aussi, tu es mon Père, en Jésus. Et que par la grâce, par ta grâce, Seigneur, il puisse avancer de victoire en victoire. Parce que ta grâce est cette puissance que tu nous accordes, sur laquelle nous pouvons nous appuyer avec force, avec assurance, Seigneur. À chaque jour, Seigneur, tu nous permets d'avancer par ta grâce. Alors, Seigneur, étends ta main sur ton Église ce matin et transforme-nous, guéris-nous, délivre-nous, Seigneur, de nos fautes. Mais amène-nous, Seigneur, à bon port, comme tu as prévu de le faire. Dans le nom de Jésus. Amen. Et amen. Est-ce qu'on peut se lever ce matin et chanter avec gratitude avant de se laisser ?